it hurts my eyes. Something without wanna love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Bonjour, je suis Anne Boucharlat et je vous présente l'émission Les Grands s'amusent. C'est la transmission de nos aînés, nos mémoires vives. C'est la continuité du monde, de nos valeurs. Et c'est surtout du partage entre générations, une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, je reçois Gilles Bertin. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
Bon. Alors, vous êtes un ancien journaliste et reporter de guerre. De Tintin à grand reporter, vous avez passé une partie de votre vie sur le terrain. Vous êtes passé d'un continent à l'autre, de l'Inde à l'Indonésie, du Pakistan à l'Argentine. Vous avez prolongé vos dépêches de journaliste par l'écriture de deux romans. Un autre est en route.
Exactement.
Il me semble.
Oui.
Vous vous livrez avec pudeur sur votre soif de comprendre le monde avec un regard bienveillant et éclairé. L'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. C'est une citation de Vladimir Jankélévitch. Alors, vos deux livres, le premier c'est « Le disparu de la République morte » sur les traces d'un ami d'enfance. En fait, c'est ce que vous racontez dans votre livre, aux éditions Kailash. Alors, je crois que vous vouliez dire un mot sur les éditions.
Kailash. C'est des éditions qui sont rue Saint-Jacques et c'est des éditions spécialisées principalement sur l'Asie.
D'accord. Ok. Et donc, oui, c'est cohérent parce que le deuxième, c'est les mêmes éditions. C'est « Afghanistan, les enfants d'une guerre sans fin ». Inspiré, bien sûr, de votre séjour au Pakistan et en Afghanistan. Voilà. Et en cours, je crois que vous allez parler d'une histoire d'un marin franco-argentin que vous avez...
tout à fait.
Voilà,
tout
que
à
vous
fait.
Avez rencontré.
Qui se déplace de France en Argentine.
Voilà. Alors, Gilles Bertin, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? Quelles valeurs vous ont apporté vos parents, vos grands-parents, votre famille, etc. Est-ce que vous avez eu des inspirations qui
Oui, les inspirations, elles sont très nettes. Quand on est enfant, on lit les bandes dessinées. On attendait à cette époque-là, Tintin en hebdomadaire. On lisait Tintin, donc c'était l'ouverture sur le monde extérieur.
Ouais.
Parce qu'il n'y avait pas de télévision. Et donc, la seule ouverture sur l'extérieur, c'était ça. Donc, c'était Tintin, c'était Le Franc, c'était Marc Dacier, etc. Quand on est petit, on lit ça. Ça nous parlait de mondes lointains qui existaient, qu'on irait peut-être voir un jour. Bon.
Donc, principalement
aussi,
les lectures. Ouais.
Principalement les lectures, mais pas que les lectures. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans une grande maison où il y avait aussi mes grands-parents. Et mon grand-père a vécu jusqu'à 100 ans. Et quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, j'allais lui lire le journal. Et comme il avait été professeur d'histoire à Saint-Cyr et à l'école de guerre, il me commentait tous les articles sur le monde entier avec des décryptages extraordinaires et vécus. Et là, il y a certainement, il y a eu quelque chose. Le petit garçon, il a pris ça.
Ouais, donc ça vous a amené à une grande ouverture sur le monde très jeune.
Tout à fait, assez jeune, parce que dès que je pouvais lui lire, parce que lui, il avait du mal à lire, il devenait âgé. Donc 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans, moi je comprenais pas toujours les articles, mais lui, il m'expliquait. Alors ça se passait en Égypte, ça se passait... en Asie, ça se passait en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc., etc.
Donc déjà une réflexion quand même sur...
Une réflexion et puis un goût de l'histoire, un goût du recul, de la profondeur. Pas seulement être sur le fait, ce qu'on fait à l'AFP d'ailleurs, pas seulement être sur le fait, mais être sur l'explication du fait. Ça, c'est très important. Donc ne pas gober n'importe quoi et avoir une explication pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc.
Donc déjà, vraiment un esprit critique très jeune, très déjà présent avec ce grand-père qui Ouais.
Moi, je pense que ça a développé un esprit critique. Mmh. Oui, tout à fait.
Donc là, vous vous êtes dit, je veux partir. Je veux partir au bout du monde, m'intéresser à ce qui se passe.
Oui, pas exactement. Il y a eu un petit clash au début, c'est-à-dire que je voulais être marin. Bon, c'est toujours un peu dans la même optique, c'est-à-dire partir au bout du monde.
La liberté.
Découvrir la planète, la liberté. La planète, c'est à moi et j'ai envie de la visiter. Et à 12 ans, j'ai passé une visite médicale et puis on m'a dit non, il faut porter les lunettes. Alors là, la carrière de marin a été brisée net. Et puis deux ans plus tard, là, je me suis fixé et à l'âge de, disons, 13-14 ans, ça y est.
Ça y est.
Je voulais aller au bout du monde. Et j'ai eu peu à peu des idées assez précises là-dessus. Mmh. Je voulais être journaliste, mais au bout du monde, alors je ne savais pas encore très bien comment, et en vivant dans les pays. Pas le côté reportage, 8 jours où on débarque de l'avion, on voit, on part, etc. Non, je voulais vivre l'aventure sur place. Plusieurs années à chaque fois.
Oui, s'imprégner du contexte, de comprendre vraiment en profondeur, comme vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait, parce que quand on vit dans un pays, on s'imprègne, on connaît les gens, on apprend à les apprécier. Mmh. C'est une autre dimension.
On apprend les codes.
Si. Et on apprend les codes, oui. On apprend les codes, on décrypte, J'avais un peu peur, et plus tard j'ai eu aussi, toujours un peu peur du reportage rapide où on lit les dépêches dans l'avion. On arrive sur place et on a déjà les idées de ce qu'on va écrire avant de débarquer. Et donc je ne voulais pas ça.
Donc là, vous avez fait quelles études justement pour devenir journaliste et reporter ?
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de journalisme à l'époque. Donc, on m'avait conseillé de faire une licence d'histoire. J'ai fait une licence d'histoire et de géographie à Caen. Et après, je suis entré à Sciences Po à Paris.
D'accord.
Donc après Sciences Po à Paris, là, on arrive de... Le mieux était d'entrer dans la presse directement. C'était très difficile. Tout le monde me disait que c'était bouché, que ça... Il fallait faire autre chose, etc.
On disait déjà ça, que c'était déjà bouché.
On disait que c'était bouché, et moi je leur répondais, mais de toute façon, je me débrouillerai toujours, même si je suis balayeur au monde, j'arriverai à monter les étages après.
C'est ça que je veux faire, et j'en démordrai pas.
Exactement.
Et
exactement.
Là, vous avez eu, je crois, un prof, Jean Lacouture.
Qui vous
a un petit peu inspiré.
Oui, j'ai eu comme prof Lacouture. Oui, tout à fait. Jean Lacouture, qui était prof à Sciences Po. Et je l'ai eu, mais j'avais été déjà à Combat. Donc, Lacouture avait travaillé pour le journal Combat.
Alors, qu'est-ce que c'est ce journal, justement?
À la fin de Sciences Po, j'ai commencé à faire des piges.
Oui.
Non payé, bien sûr.
Donc, des piges, ça veut dire que vous êtes extérieur au journal.
C'est-à-dire on est extérieur au journal, on travaille, on est payé plus ou moins.
Ouais.
C'était le deal.
Ouais.
Et je suis entré à Combat et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé au service étranger sur ce qui me plaisait, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Espagne, la guerre des œillets, la révolution des œillets, c'était en 1974.
Oui. Donc Combat, c'était un quotidien.
Combat, c'était un quotidien qui avait été fondé pendant la Deuxième Guerre mondiale par Sartre, Camus, etc. et qui continuait sa route et qui avait quelque chose d'assez spécial, c'est que à l'intérieur, la moitié de la rédaction était à gauche, l'autre moitié à droite et c'était donc le dialogue permanent.
Oui.
Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu une crise dans ce journal. L'équipe de Philippe Tesson est partie et on a embauché immédiatement ceux qui étaient sur place, qui partaient pas avec lui, etc., etc. Et Philippe Tesson allait créer le quotidien de Paris, donc il a pas, il pouvait pas m'emmener. C'était moi j'étais un jeune journaliste, j'étais même pas pigiste. Et donc, j'ai été engagé du jour au lendemain.
Ah oui, d'accord.
Donc, ça, il y a un coup de chance qui a, qui a marché.
Il y a le timing, ton temps qui...
Le timing était excellent. Donc moi, j'ai pas hésité. J'ai commencé à travailler pour Combat. Malheureusement, Combat a coulé quelques mois plus tard.
Et là vous écriviez des papiers signés.
Oui, tout à fait.
Ça y est, ça a commencé.
Tout à fait. Je me souviens d'un premier papier que j'ai écrit, qui était à la une du journal. C'était au moment de la révolution donc des œillets au Portugal, intitulé « Soares comme Mendes ».
Ouais.
Et c'était mon premier article signé. Et je toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me dis, c'est pas possible, il ne va pas être publié, il n'y aura pas mon nom, etc., etc. Et si, j'étais au kiosque à côté, j'ai acheté le journal et c'était...
C'est le début.
Ça, c'est un grand bonheur.
Ah oui, c'est un grand bonheur, j'imagine. Début d'une magnifique aventure. Ouais. Là.
Et puis, on prenait le journal, on avait plein d'encre sur les mains.
Donc là, vous avez bossé toute la nuit et vous avez rédigé très rapidement votre premier article. C'était dans le feu de l'action.
Oui.
Donc après ça, alors vous partez faire votre copé à Calcutta.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui vous prend de partir à Calcutta dans les années donc 70?
Oui, c'est ça.
Calcutta, qui était une ville quand même où il y avait beaucoup, beaucoup de misère.
Oui.
C'était pas forcément un endroit.
C'était aussi, j'avais pas envie d'aller faire mon service militaire dans une caserne en Allemagne où on boit de la bière et on glandouille. Aucun intérêt. Donc je m'étais rapproché de l'Alliance française et ils cherchaient des profs. Et au téléphone, ils m'ont tout de suite proposé un poste en Asie. Alors j'ai dit oui. On m'a dit, ah oui, c'est en Inde, ça ne vous gêne pas? Non, non, pas du tout. Et quand j'ai commencé à demander où c'était, là, il y a eu un flou. Et on m'a dit, oui, mais vous savez, c'est en Inde, je ne sais pas très bien si c'est Bombay, Madras, etc. Et je leur ai dit, mais j'ai besoin de savoir, etc. Et Calcutta, ils m'ont dit Calcutta. Et j'ai dit oui. Et après, j'ai su pourquoi ils avaient eu 3 ou 4 refus, parce que Louis Malle avait sorti un an avant, je crois, ou 2 ans avant.
De cinéma.
Oui, tout à fait. Un documentaire extrêmement dur sur Calcutta, qui était vrai d'ailleurs, mais qui était très lourd. Et quand je suis parti à Calcutta, mes parents faisaient un peu grise mine, ça c'est vrai.
Personne ne voulait y aller en fait.
Personne ne voulait y aller, mais bon, c'était formidable. Les Bengalis sont formidables. Ouais. Et bon.
Alors, on va passer une petite musique et on va en parler juste après. Alors ça, c'est un choix, c'est Shankar
Menuhin. Tout à fait. C'est une rencontre entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire que Ravi Shankar, le sitariste, joue avec le violoniste Menuhin.
Voilà, c'est
formidable.
C'est deux grands monstres de la musique.
Tout à fait.
Ouais. On y va et puis on parle ensuite de l'Inde. À tout de suite. Sur Radio Aligre 93.1 dans l'émission Les Grands s'amusent avec mon invité Gilles Bertin, ancien journaliste et reporter de guerre. Donc vous arrivez à Calcutta. Est-ce que vous êtes bien accueilli à Calcutta?
Oui, je suis assez bien accueilli à Calcutta. Oui, tout à fait. L'Alliance française fonctionnait assez bien. C'est une ville de plusieurs millions d'habitants. Et là, on plongé dans l'Inde profonde parce que je crois qu'à Calcutta il y avait 5 ou 6 Français, donc le consul, son adjoint, deux ou trois humanitaires qui travaillaient dans des bidonvilles à Pilcana, du côté d'Ahora, et puis un ou deux prêtres, et puis un banquier, je crois, c'est tout.
Donc là, vous donnez des cours ?
Là, je donne des cours de français, langue étrangère,
ouais,
à des petits Bengalis,
ouais,
et des cours de littérature à des Bengalis plus grands.
D'accord.
Mais de n'importe quel âge. Alors ça, ils avaient entre 7 et, je pense, 70 ans.
D'accord. Et là, est-ce que vous commencez à écrire des dépêches là, vous...
Alors, j'ai eu la chance, oui. J'ai eu la chance, parce que j'avais toujours ce virus d'être journaliste.
Ouais.
J'ai eu la chance de rencontrer le correspondant de l'AFP à New Delhi et qui m'a demandé de faire des piges payées, des piges pour l'AFP sur ce qui se passait à Calcutta, parce qu'il ne pouvait pas couvrir, lui il était basé à New Delhi, il ne pouvait pas faire tout le pays.
Tout le pays, ouais.
Et puis j'ai fait aussi, et ça m'a plu, j'ai travaillé pour un journal indien qui s'appelle The Statesman,
ouais,
qui existe toujours, un grand journal indien, sur des thèmes de l'étranger que je connaissais bien, c'est-à-dire l'Espagne, l'Amérique latine, la dictature argentine, etc. Ça me donnait une ouverture et c'était traduit par un des professeurs de l'Alliance française.
Oui, donc il y avait comme ça une... Alors, il vous arrive aussi des belles rencontres là-bas.
Oui.
Vous rencontrez Mère Teresa.
Je rencontre Mère Teresa parce que on habitait à côté de Shishubhavan, qui est la maison des enfants. Et donc, on était devenus amis avec une des sœurs qui travaillait avec Mère Teresa, qui s'appelait Sœur Fabienne, une Normande. Et on a connu Mère Teresa et on la voyait très régulièrement. Une petite bonne femme assez solide, amusante, pas mal de qualités et surtout une femme de terrain.
Quand vous dites « on », c'est qui ?
C'est mon épouse et moi-même.
Donc vous êtes mariée sur place ?
Non, j'étais mariée.
Vous êtes partie ?
Tout à fait, avec
votre
Espagnole.
Oui. Donc vous êtes partie en famille ?
Enfin, à deux.
À deux.
Petite famille.
Voilà.
Petite famille et il n'y avait pas d'enfants.
Donc, Mère Teresa, elle avait fondé les missionnaires de la charité.
Oui, tout
voilà.
à fait.
Elle s'occupait des
mourants, principalement.
Oui.
Il y avait un endroit qui s'appelait le mouroir, et qui était, c'était les mourants de tout Calcutta qui venaient là en désespoir de cause, et c'était un peu palliatif.
Oui.
Et puis, il y avait Shishubhavan, la maison des enfants, donc destinée à des bébés qui avaient été abandonnés, recueillis, trouvés dans Calcutta. Et tous les matins, les sœurs de Mère Teresa passaient avec une petite ambulance dans les rues de Calcutta pour ramasser les corps de ceux qui étaient morts, mais aussi les bébés qui trouvaient à droite, à gauche.
Qui trouvaient en vie.
Envie,
et qui les amenait ensuite là. Alors là, il vous arrive quelque chose d'assez joli. Vous avez envie d'avoir des enfants.
Oui, tout à fait.
Avec votre épouse. Et vous vous dites, pourquoi finalement faire des enfants alors que...
Exactement. Il y en avait plein dans les rues.
Malheureusement,
malheureusement, ouais. Oui.
Donc vous décidez d'adopter.
Oui. Et donc, on a adopté à Shishubhavan, donc la maison des enfants, une petite Bengali qui était toute maigre, toute petite et souriante et magnifique. Et on voulait adopter une fille parce que en Inde, les adoptions des Indiens à cette époque-là, donc dans les années 70, on est en 74-75, les Indiens adoptaient des garçons et pas des filles.
Ah oui, c'est toujours un peu le cas. Oui. Alors, vous dites quelque chose de très joli dans votre livre. Vous dites, elle m'apparaissait d'une maigreur effrayante, de son visage en triangle. Je ne voyais que d'immenses yeux noirs. Docile et sans défense, la petite se laissait faire, contente de se sentir soulevée, palpée, admirée. Je l'admirais déjà. C'est joli, hein? Donc voilà, elle est aujourd'hui, elle a une trentaine d'années.
Elle a un peu plus.
Une quarantaine d'années. Et puis elle est journaliste.
Elle est journaliste en Suisse. Tout à fait. Donc, une spécialiste de l'horlogerie suisse.
Et donc elle a suivi un peu les traces de son papa.
Exactement. Elle écrit très bien en plus.
Voilà. À l'époque, en Inde, donc on est toujours en Inde. Beaucoup de jeunes venaient à Goa et disparaissaient. Il y a eu une grosse affaire comme ça autour d'un tueur en série qui s'appelait Charles Chaubraz.
Exactement. Il y a eu une série sur lui. Mais à l'époque, dans les années 70, les hippies ou les junkies, c'est-à-dire les adeptes de la drogue dure, avaient assez peur de se rencontrer ce personnage qui abordait les touristes un peu perdus, se faisait amis avec eux, les rançonnait, et si avec ça, mais les tuait en général au passage. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes qui ont disparu comme ça sur la route des Indes, c'est-à-dire entre Bombay, Goa. Ils venaient rarement à Calcutta parce qu'il n'y a rien à Calcutta, il y a une telle misère que finalement, il n'y a rien à faire pour eux, et puis ils partaient sur Katmandou. Et un jour, je fais une toute petite parenthèse, un jour j'ai rencontré un couple qui cherchait son fils, cherchait leur fils qui avait disparu.
Ce que vous racontez dans votre
livre. Et c'est là où j'ai eu l'idée de démarrer le livre là-dessus. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais retrouvé.
Non. Ouais. Donc ça, votre livre s'intitule
Le disparu. De la République morte.
Il y a eu un livre aussi qui s'appelle La trace du serpent de Thomas Thompson et une série sur Netflix qui vient de sortir avec
Tout à fait, sur Charles Chaubraz.
Voilà.
C'est un métis indien vietnamien, mais qui était d'une froideur et d'une cruauté avec ses victimes, personnage assez redoutable.
Il a tué une trentaine de personnes à peu près.
Ouais. À peu près, ouais. Oui.
Vous avez investigué sur ce personnage à l'époque?
Non.
Non, pas spécialement.
Non, on en parlait régulièrement parce qu'on savait qu'il existait, il se déplaçait d'un endroit à un autre. En général, il ramassait les petits occidentaux qui venaient chercher le nirvana en Inde ou au Népal. Il y en avait beaucoup. À cette époque, le gouvernement français avait créé un poste de médecin à Bombay uniquement chargé de s'occuper des junkies, des gens qu'on ramassait sur les plages. Parce que les Indiens, il y a un état de pauvreté en Inde qui fait que c'est un peu du luxe, ces Occidentaux qui viennent pour se piquer dans leur pays. Oui. Donc quand ils les ramassaient à moitié fous, ils les mettaient dans un hôpital psychiatrique, ce qui achevait de les tuer.
Mais
ils n'avaient pas la structure.
Pour s'occuper d'eux,
ni la volonté. Ils avaient autre chose de plus urgent, je pense. Ouais.
Donc ensuite, vous avez couvert un petit peu la guérilla pour l'indépendance du Timor.
Alors là, oui.
Oui.
Là, c'était on saute. Je rentre à l'AFP à la fin du passage en Inde. Je suis resté quand même quasiment 3 ans en Inde. Je rentre à l'AFP et le premier poste où on m'envoie, c'est Jakarta, donc l'Indonésie. Ma première dictature, parce que finalement, j'ai fait des dictatures une partie de ma vie. Tous les pays en dictature.
Oui, on va en parler après. Ouais.
Donc, on arrive à Jakarta et c'était le général Suharto et il y avait une petite île qui s'appelait Timor, qui s'appelle toujours Timor, qui avait été envahie par ses troupes une dizaine d'années avant et il y avait toujours une guérilla soutenue par grand-chose. Si ce n'est leur foi, parce qu'ils étaient catholiques et que le reste de l'Indonésie est musulmane.
Donc là, vous partez. Donc vous êtes. C'est un régime qui est très dur avec la presse. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets tabous.
Le régime est très dur avec la presse. Et le général Suharto, pour se maintenir au pouvoir, frappe à droite, à gauche et au milieu. C'est-à-dire que il pend de temps en temps des communistes, après il pend des musulmans extrémistes, et puis après il fait des espèces de commandos de la mort pour aller tuer les pseudo-drogués, homosexuels, etc. Et puis cette affaire de Timor, et au bout donc de 3 ans, j'ai été expulsé d'Indonésie pour avoir publié des articles sur Timor. Jamais le gouvernement militaire nous a dit que c'était faux, mais il nous a dit qu'il ne fallait pas les publier.
Donc. Ah oui, donc dans ces cas-là, c'est expulsion des journalistes.
Hein. Exactement. Et ma consigne de la part de l'AFP était assez claire, c'est-à-dire il ne fallait pas faire de provocation, mais quand vraiment il y avait quelque chose à dire, il fallait le dire.
Ouais.
Et je l'ai fait, à mon avis ça a été le coup de trop. Un jour j'ai eu un interview dans la nonciature apostolique à Jakarta avec l'évêque de Timor qui m'a fait une déclaration incendiaire sur la manière dont on traitait les Timorais. Et je crois que c'est ça qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et cet évêque de Timor était quelqu'un de très... Monseigneur Bello, de très droit. Et il a eu le prix Nobel de la paix.
Ah oui.
Donc, pour son attitude à cette époque-là.
Pour son attitude, oui. Donc là, c'est compliqué. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes... qu'on vous dit de rentrer chez vous, qu'est-ce qui se passe? Alors vous vous retrouvez où?
Alors ça, c'est un problème. On est expulsé, donc on a... j'ai eu 2 semaines ou 3 semaines, et puis il faut faire ses bagages, il faut partir.
Et là, vous êtes dans quel état? Vous êtes frustré ou...
Ah oui, on est vous un êtes peu très frustré parce que je voulais faire un an de plus.
Ouais, vous étiez...
On est frustré, et puis c'est les militaires qui gouvernent. Donc le ministère des Affaires étrangères indonésien essaye de dire mais non, on va arranger, etc. En fait, c'est les militaires.
Et, donc il n'y a pas de négociation avec eux.
Il n'y a pas eu de négociation. Et donc je suis parti et je suis revenu en plein hiver à Paris.
Donc là, l'AFP vous rapatrie?
Là, l'AFP nous rapatrie.
Ils vous disent stop.
Revient, et puis, oui, de toute façon, c'est ça ou se faire reconduire à l'aéroport avec des menottes. Alors,
c'est ça.
De toute façon, on n'a pas le choix.
Donc là, ensuite, vous allez partir au Pakistan.
Alors après, oui, tout à fait. Je reste à Paris un an et demi ou 2 ans. Et je suis nommé à Islamabad pour m'occuper encore d'une dictature, le Pakistan, qui était aux mains du général Ziaoulak.
Donc là,
surtout la guerre d'Afghanistan, où il y avait une centaine de milliers de soldats soviétiques essayant de mater... les moudjahidines rebelles.
Là, on est à la fin des années 80. Vous montrez aussi que c'est un conflit local sur des oppositions tribales. Les troupes soviétiques appelées à l'aide par le régime communiste afghan marquent le pas face aux tribus afghanes. Elles ne parviennent pas à contrôler ce pays qui est aride et montagneux, très propice justement à la guérilla.
Tout à fait, tout à fait. On voit ce qui se passe avec les Américains maintenant. C'est la même chose. C'est un pays qui est incontrôlable. L'Afghanistan est un pays. Autant les Anglais avaient réussi à faire un empire des Indes stable, autant en Afghanistan, il y a eu 4 guerres anglo-indiennes et les Anglais se sont fait battre à chaque fois. Donc les Russes arrivent là-dedans. Ils refont les mêmes bêtises que tout le monde. Et puis, le pays est un pays vallonné, des montagnes, des grottes, des ethnies très fortes. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, un goût de la chasse et de la guerre fantastique.
Et oui, il n'y a rien d'autre, en fait.
Exactement.
Donc, on va parler des Moudjahidines, mais juste avant... On va passer un petit extrait de Lina qui s'appelle « Les hommes de Massoud ». Donc on passe cet extrait et puis on va parler de tout ça juste ensuite. Voilà.
Première ligne de front. Dans ces montagnes se joue la bataille pour l'Afghanistan. C'est ici que se sont retranchés les hommes du commandant Massoud pour combattre avec l'aide du relief les fous d'Allah, l'ennemi taliban. Nous sommes au poste le plus avancé, quelques mètres de plus, et là-bas dans le virage, ce sont les talibans. La fin de l'hiver a sonné, la sortie des tranchées. Ce ne sont pas encore les grandes offensives de printemps, mais depuis que la neige a fondu, les journées sont rythmées par de petits accrochages. Nur Ahmad est un mujahideen, un combattant. Son père était Mujahideen. Il est tombé sous les balles de l'occupant soviétique. À l'époque, Mouramad était trop jeune pour se battre, mais aujourd'hui, il est fier de lutter en première ligne.
J'ai 18 ans.
Tu as déjà tué des talibans ?
Oui.
Tu aimes les combats ?
Oui, j'adore ça.
Depuis combien de temps combattu ?
7 ans.
7 ans, notre traducteur a du mal à le croire, mais qu'importe. Son commandant en première ligne est fier de lui.
C'était un extrait de Lina qui s'appelle Les combattants de Massoud. Nous sommes toujours sur YFM 93.1 dans l'émission Les grands s'amusent avec Gilles Bertin. Alors justement, ce qui est frappant dans cet extrait, c'est qu'on sent que les Moudjahidines sont très très fiers que les jeunes prennent la relève, les jeunes commencent la guerre à 7 ans quasiment. C'est
tout à fait. J'ai
possible.
Été dans des camps Moudjahidines où il y avait des jeunes qui devaient avoir 7-8 ans. Ils étaient un peu plus hauts que leur Kalachnikov, mais pas beaucoup plus, hein. Et leur seule perspective, c'était de devenir Moudjahidine. Et quand on leur posait les questions avec un interprète, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Ils nous disaient « Je veux être Moudjahidine, donc je veux me battre. » Contre qui, c'était à la limite pas très important, mais ils voulaient.
Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ?
Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'on leur apprend que ça. Il n'y a pas d'école ou peu d'école, surtout à la campagne.
Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de...
Si, très peu. À part
l'opium.
Le pavot, oui. À part le pavot, il n'y a pas beaucoup d'agriculture rentable. Donc, où ils vont s'entasser dans les villes, ils essayent d'étudier, et c'est très difficile. Où ils restent à la campagne, et une des solutions pour eux, c'est d'entrer dans un groupe de combattants. Ça peut être... Il y en a beaucoup, hein.
Oui.
Il y en a beaucoup, parce que les ethnies sont très différentes... Et donc, chacun a ses filières, ses familles, enfin, ses sortes de tribus.
Oui, oui. Et vous, comment vous réagissez par rapport à cette vision de jeunes, tout jeunes comme ça, avec des armes ?
Ben, on essaye de les interviewer, mais ils ne parlent pas beaucoup. Comment on réagit ? C'est triste parce que... Ceux qui restent en Afghanistan, ils deviennent Moudjahidine et ils veulent se battre. Les autres, ils n'ont pas plus d'avenir parce qu'ils s'entassaient à l'époque dans d'immenses camps de réfugiés du côté de Peshawar où il y avait je crois que c'était, ils arrivaient jusqu'à 1 million ou 1,5 million de réfugiés. Et avec très très peu de classes, très très peu de cours, donc pas beaucoup d'avenir et de possibilités.
Ouais. Alors dans votre livre, vous dites le fil rouge, c'est Aziz le sage, qui protège les enfants des deux côtés, du Pakistan et de l'Afghanistan. Il essaye de calmer les angoisses un peu de tous ces jeunes. Il leur dit que de souffrances atroces, mais un jour, il faudra effacer la vision des hordes armées qui écument ce pays. Cette guerre est celle de vos parents. Vous tous devrez forcément vivre ensemble comme des frères et sœurs ou des amis. Les Afghans devront mettre fin à cette guerre de civile permanente. Si je vous transmets uniquement cette clé de vie, je pourrais m'estimer heureux. Voilà. Donc c'est ce sage, hein, vous l'avez rencontré ou c'est...
Non, lui c'est, non, mais c'est, un c'est, ou deux qui, ouais. ou trois d'ailleurs qui étaient exactement dans cette même optique. Parce qu'ils
ouais.
en avaient assez de se battre. Hein. On se bat le matin, on se bat le soir, la seule possibilité de se battre... Et on a vu ce que c'était après le départ des Russes. Les Russes sont partis et les Moudjahidines se sont battus entre eux. Il y a eu Hekmatyar et les Pashtuns contre Massoud et les Tadjiks. Et ça a continué et sans fin.
C'est des pays où la guerre perpétuelle.
C'est la guerre perpétuelle ouais. Et je pense que... Installer la démocratie, c'est vraiment présomptueux. D'ailleurs, les Américains même ont déversé des milliards et des milliards, ils n'y sont pas arrivés.
Ouais. C'est triste, mais... Alors, il y a une ou deux anecdotes qui sont assez incroyables. À un moment, sur la photo que j'ai mise pour annoncer votre émission, on vous voit entouré de moudjahidines avec votre main posée sur, je crois que c'est un canon.
Oui, c'est un canon antiaérien qui, je pense, était russe d'ailleurs et qui servait à tirer sur les hélicoptères s'ils arrivaient. Parce que le grand renversement de cette guerre, il y a eu deux renversements militaires, ça a été l'introduction des hélicoptères russes, qui étaient, c'était des espèces de monstres d'acier qui tiraient, qui, extrêmement dangereux. Et les Américains, après, ont fourni les fameux missiles Stinger, qui étaient capables de descendre
ces hélicos.
Ces hélicos. Ouais. Et ça, ça a été un tournant définitif.
Mais alors vous, quand on vous propose de tirer...
Eh ben je refuse.
Vous refusez. Vous êtes mal à l'aise.
Non, c'est pas mon boulot.
Leur dites, c'est pas mon boulot.
C'est pas mon boulot. Et non, parce que ça les amusait souvent de faire tirer les journalistes ou les humanitaires. Parce qu'il y avait certains groupes humanitaires qui étaient vraiment une aide politique et pas une aide tellement humanitaire.
Ah oui, d'accord.
Et donc, les faire tirer en direction, c'était un peu symbolique. Mais j'ai toujours refusé ça.
Non,
on est là pour les journalistes, surtout l'AFP, les agenciers. On est là pour faire écrire des faits, les expliquer. On n'est pas là pour participer à n'importe quel djihad.
Et là, vous dites que donc, vous passez effectivement d'un côté et de l'autre pour pouvoir avoir un contexte, pour pouvoir connaître les deux contextes.
Alors oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est assez rare. J'ai pu faire donc des articles et aller avec du côté des Moudjahidines à propos du siège de Jalalabad, sur des attaques, etc. Et j'ai réussi à avoir un visa pour aller à Kaboul du côté de l'armée afghane communiste et des Russes. Et c'était assez difficile, on pouvait le faire qu'une fois, parce que, à mon avis, la deuxième fois, on n'avait plus de visa.
C'était compliqué d'avoir l'autorisation.
Et je me rappelle, au point de vue danger, parce que ça, c'est... On ne se rend pas compte de ça. On prenait l'avion à New Delhi pour arriver jusqu'à Kaboul, et l'avion, donc un avion russe, arrivait au-dessus de Kaboul, à 3000 mètres, et commençait à descendre en cerclant, tout doucement. Et on voyait des hélicoptères qui montaient à droite et à gauche de l'avion, assez loin, et qui jetaient des leurres thermiques pour éviter les tirs de Stinger.
Waouh. Et là, là, j'imagine qu'on a un petit peu peur quand même par moment, non ?
Oui, on se demande. De toute façon, on n'y peut rien, mais on se demande comment ça peut finir.
Comment ça peut finir ? Alors justement, il y a Six qui est avec nous, qui est un jeune étudiant, qui va vous poser quelques questions sur un petit peu ces thèmes. Juste après, une musique que vous avez choisie, c'est Nougaro, le titre. C'est vous qui l'avez choisi, c'est... Je ne sais plus, bon, on va le passer, puis on verra après. Voilà, on passe, et puis ensuite, Six, tu poseras tes questions. Voilà, à tout de suite.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. J'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud. J'ai froid, oh moi qui suis blanc de peau. Quelle histoire,
c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge sans, sans, sans te revenir pour qu'on soit ma voix.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1, les grands s'amusent avec Gilles Bertin. Alors, nous allons parler de Six, qui est un jeune étudiant qui anime des ateliers culturels pour une société qui s'appelle Tous en Tandem, va poser quelques questions à notre invité. Je te laisse, Six.
Bonjour monsieur, merci beaucoup de répondre à mes questions. J'aurais une première question. Donc, vous avez d'abord été journaliste en France, pas spécialement journaliste de guerre au début en tout cas.
Non, guerre c'est une partie, voilà. Hein, ça a duré 3 ans ou 4 ans après.
Et donc, en fait, parce que le journaliste il a un rôle dans la société, celui d'informer, de l'actualité, de ce qui se passe. Et est-ce que vous verriez dans le journalisme de guerre un autre rôle que simplement l'information ? Est-ce qu'il y aurait un rôle sociologique un peu plus, un peu différent, un peu plus poussé, un peu plus recherché, je ne sais pas, ou juste simplement autre chose ?
Autre chose, oui, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, parce que finalement, quand on est sur le terrain, le combat, les positions, l'évolution des troupes, etc., ça a un intérêt factuel, mais bon, c'est assez limité. Non, ce qu'il faut, c'est essayer de raconter la vie ou des combattants, ou des civils, ou des gens qui sont sur place. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont devenus réfugiés parce qu'ils ont été chassés par la guerre, et ça, on en a trouvé énormément en Afghanistan. Et on s'intéresse aux familles, aux enfants, aux femmes, un peu à tout le contexte, parce qu'une guerre, ça fait plus de morts civiles que de morts militaires.
D'accord, ok, je vois, merci beaucoup. Donc j'avais une autre question aussi, c'est donc ce que vous disiez, là, voilà, le journaliste de guerre, il doit transmettre tout ce que vous venez de dire, mais comment faire pour être impactant, pour réussir à transmettre la vérité de ce que vous rencontrez sur le terrain à des gens qui habitent à Paris et qui ne connaissent pas ça du tout. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre et comment vous faites pour y arriver ?
D'abord, il ne faut surtout pas en rajouter trop, parce que c'est trop facile. Quand on est sur place, si on vous fait écouter des bruits de Kalachnikov ou des bruits de bombes, de missiles, etc., oui, ça c'est pour l'ambiance, mais il faut arrêter et expliquer comment vivent les gens en dessous, qu'est-ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, le boom-boom, à la limite, oui, il en faut un peu, parce que le journaliste de guerre, il doit en faire, mais c'est surtout expliquer qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Je me souviens, moi j'étais bombardé par les deux camps. Une fois, c'était les Moudjahidines qui nous tiraient dessus parce qu'on était avec l'armée afghane, ou à Kaboul, on était bombardé aussi par les Moudjahidines. Et puis de l'autre côté, je me rappelle, c'était avec Médecins Sans Frontières, c'est des avions qui ont essayé de nous tirer dessus et on s'est mis sous un pont, etc. Bon, ça existe, ça va, il faut le raconter, mais il faut, je pense, raconter ce qui se passe autour, pas seulement la guerre, purement la guerre. Et on le voit maintenant, les journalistes de guerre ont beaucoup plus de recul qu'avant, j'ai l'impression. Et ils parlent plus de la population, des déplacements, des dégâts collatéraux. C'est affreux, mais bon, ça arrive. Je crois que c'est un tout. Hein. C'est pas seulement, on est sur une bataille. Voilà.
Pour un aspect moins guerrier et plus... plus civil, plus de la vie du quotidien.
C'est-à-dire, l'explication, oui. Parce que la guerre, elle reste la même. Elle reste guerrière. Ils s'en battent d'un endroit à un autre. Ils augmentent. C'est très stratégique. On avance, on recule, etc. Je pense que le journaliste doit expliquer le contexte, c'est sûr, mais aussi la vie des gens qui sont autour.
D'accord.
Et qui ont été impactés par cette guerre.
Et pour y arriver, à votre avis, c'est quoi le mieux ? C'est des photos, c'est des films, c'est de l'écriture, c'est un mix de tout ? Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça ?
C'est un mix de tout. C'est un mix de tout. Parce que les photos, vous avez un instant donné une personne, un tireur, une personne qui se fait tuer, etc. Les films, les vidéos qu'on fait à l'AFP vous donnent tout un contexte beaucoup plus général. Quant au journaliste écrit, bon, avant c'était, on décrivait les combats, etc. À la limite, maintenant c'est un peu plus, avec un recul, c'est plus explicatif qu'autre chose. Et on a besoin de ça, on a besoin de ça.
D'accord, ok, merci beaucoup. Donc une dernière question aussi, c'est, vous avez donc été très proche des combats, et justement pas en tant que combattant, donc avec ce point de vue objectif, ou du moins le plus objectif possible du journaliste, quel est votre regard du coup sur la violence, sur les conflits, sur la guerre, tout ça? À votre avis, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est intrinsèque aux hommes? Est-ce qu'on peut s'en passer? Enfin, comment est-ce que... C'est un peu philosophique comme question, je conçois, mais... Comment est-ce que vous ressentez la guerre, du coup, avec cette expérience?
Il y a beaucoup de guerres sont totalement inutiles. Je vois l'histoire de l'Afghanistan. On est maintenant, on revient au même point, ou presque, qu'à l'époque des Russes et qu'avant, etc. Des guerres et les violences inutiles. Alors, je vais revenir sur l'histoire de Timor. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu une guérilla à Timor... jamais ce pays aurait été indépendant, alors que c'était une violation, une invasion d'un petit morceau de terrain qui aurait dû être indépendant, que les Nations Unies ont reconnu indépendant, et l'armée indonésienne et la junte militaire indonésienne, ils ont envahi tout ça. Il n'y aurait pas eu une guérilla, il n'y aurait jamais eu d'indépendance. Donc, vous voyez, c'est... Et là, la violence était certainement justifiée, ou alors ils n'étaient plus indépendants, ils abandonnaient leur culture, leur religion.
D'accord, ok, je comprends. Voilà, bon, merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi, Sixte. Alors, j'avais justement à propos d'écriture, de roman, qu'est-ce qui vous a donné envie de prolonger justement peut-être ces dépêches en roman?
Alors, on est un peu frustré parce que le métier d'agencier, c'est d'aller sur le terrain, d'expliquer la situation, de mettre dans chaque dépêche de 500 mots, 600 mots maximum, le fameux background, c'est-à-dire l'explication pour comprendre la situation, des bonnes sources, ça c'est très important, et pas n'importe quelle source, des sources qui ont été vérifiées. Donc, ça c'est très important. Mais quand on est journaliste et qu'on reste, j'ai dû faire 25 ans à l'étranger, on est quand même un peu frustré parce que vous faites des dépêches de 600 mots, 700 mots sur un sujet, sur un autre, etc. Et vous avez rencontré des gens formidables ou affreux, et vous avez envie de raconter un peu ce qui s'est passé derrière, ce que vous avez vécu. Et ça, vous ne pouvez pas le raconter dans les dépêches. Donc, ou vous faites un documentaire, mais les documentaires, c'est fixé à un moment donné, il s'est passé ça. Je pense que le roman, avec des personnages qui ont vécu, où ils peuvent se reconnaître d'ailleurs souvent, c'est plus intéressant.
C'est plus vivant.
C'est plus intéressant, c'est plus vivant, ça attrape un autre public.
Ouais.
Le deuxième livre sur l'Afghanistan, je me souviens, c'était... cette guerre d'Afghanistan avait attiré tout un tas d'espions de tous les pays du monde. On trouvait la CIA, la DGSE, le MI6, les Chinois, le Mossad, etc., etc. Parce que voir 120 000 soldats soviétiques à l'époque de la guerre froide en manœuvre, ils étaient tous déchaînés à aller voir ce qui se passait. Et donc, voilà, ça je voulais l'expliquer parce que ça a été relativement peu expliqué.
Et d'ailleurs, j'encourage à ceux qui nous écoutent à aller lire ces livres qui sont passionnants. Qu'est-ce que c'est un bon scoop?
Ah, un bon scoop, c'est... Un bon scoop, c'est être en avance sur la concurrence et avoir un scoop. Pour nous, à l'AFP, c'est un scoop, c'est du factuel. Un scoop, c'est vraiment... On a une information quasiment mondiale à un moment donné. J'en ai eu lors d'une mutinerie en Argentine, de l'armée argentine, où j'ai été réveillé en pleine nuit par quelqu'un qui nettoyait le bureau de l'AFP et parce que il avait entendu les radios, il devait être 3h du matin et il y avait vraiment des bruits de bottes. Et je me rappelle avoir appelé Paris et Paris n'était pas au courant, il n'y avait rien. Ça, c'est le scoop. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'autres agences étrangères et vous, vous commencez à dicter à la sténo votre information en disant les troupes sortent de leur caserne, ils veulent renverser le gouvernement, ça c'est un scoop.
Génial. Et là, ouais.
Et j'ai eu aussi un... C'était pas un scoop, mais c'était une préparation, j'aurais bien aimé l'avoir. C'était un avion qui s'écrase au Pakistan et dans cet avion, il y avait le général, le dictateur pakistanais et l'ambassadeur des États-Unis. Et on n'a pas pu vérifier, on a été alerté, on n'a pas pu vérifier à 100% que c'était vrai. Et pour un correspondant, tuer le général président dans le pays où vous êtes, c'est un peu dangereux. Et donc, on a été prévenu. Et au moment où ils l'ont annoncé, on avait tout ce qu'il fallait et on pouvait expliquer.
Sortir, ouais.
Mais on n'était pas sûr à 100%. Et l'AFP, on doit être à 100%.
Ouais,
on
ne
peut
ouais,
pas se permettre. Il y avait de grosses probabilités, mais ce n'était pas sûr.
C'était pas sûr, oui. Ça passe très vite. Alors, voilà, on va finir avec deux choses. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme étude? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être journaliste, pour être reporter de guerre?
Moi, ce que je conseille toujours, c'est des études d'histoire. C'est toujours histoire, économie, Sciences Po et l'international. Et si possible, parler plusieurs langues.
Oui, ça c'est important.
Ça, c'est très important de parler plusieurs langues.
Ouais.
Parce que quand on va sur place, on se débrouille quand même beaucoup mieux.
Ouais. Ouais, ouais.
Non, les études, c'est... Et puis les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, mais bon, pas que, et pas...
C'est pas la solution.
Ouais. Non, c'est pas la solution à 100%. C'est très bon, mais c'est pas la solution à 100%. Je vois l'AFP, on recrute un peu partout, dans les écoles de journalistes principalement, mais ça peut être un spécialiste de la Chine qui parle chinois ou,
Des profils
ou un
assez,
spécialiste arabe. Je crois qu'il faut surtout, on en revient à la qualité de base, c'est être curieux.
Oui.
La curiosité, c'est la clé.
C'est le message, justement. Si vous aviez un message pour les jeunes...
si un jeune qui voudrait être journaliste, d'abord, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. C'est pas à mi-temps. Faut vraiment s'investir. On ne fait pas ça en plus de... Non, on fait ça à plein temps. Et puis, il faut avoir une curiosité naturelle de tout ce qui vous entoure. Ça peut être journaliste en France, les autres... l'actualité, les pays étrangers, être curieux de tout.
Ouais.
Et je crois que c'est ça qui pousse le journaliste à faire bien son boulot.
Ouais, c'est une grande ouverture d'esprit.
Une grande ouverture d'esprit, bien sûr.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Bertin, pour cette belle émission,
merci
pour cette belle transmission. On a appris beaucoup de choses, c'était passionnant. Merci à Sixte aussi. Et puis,
merci,
je remercie aussi les techniciens, Tanguy Rivière, Geoffroy Douvrelier, j'espère que je n'écorche pas ton nom, et Joanne Lucas. Voilà, merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Voilà, à bientôt. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me, just one look at you, and I know it's gonna be a lovely instead of me.
to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at